RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules tous les jours avec vous, bien sûr, au 32-16, on discute, on débat, on parle de ce qui fait notre société, notre quotidien. On en parle aujourd'hui avec Elina Dumont, intervenante sociale. Nous sommes avec Mehdi Guézard, chef d'entreprise. Étienne Liebig est avec nous, il est anthropologue éducateur en Seine-Saint-Denis. La suite des réjouissances dans les GG, tout à l'heure à midi moins 25, nous serons avec Éric Brocardi. C'est le porte-parole des sapeurs-pompiers, c'est l'un des visages que vous avez vu tout au long de l'été. Il est venu... Nous raconter les feux, nous tenir au courant de la situation. Visiblement, c'est maintenant en train de s'apaiser. Heureusement, mais le travail des pompiers sur place, il va durer jusqu'à fin septembre, mi-octobre. Il faudra qu'il y ait de la pluie aussi pour que ça aide les soldats du feu. Mais quels enseignements on va tirer de ces incendies ? De quoi les pompiers ont-ils besoin ? Parce que le président de la République va réunir les acteurs, les élus locaux, les agriculteurs... Les services d'incendie, de secours et de pompiers. Et de quoi ont besoin les pompiers ? Parce qu'on attend plein de chiffres. Est-ce qu'il faut maintenant juste une armée de pompiers professionnels ? De combien de pompiers volontaires a-t-on besoin ? Est-ce qu'on doit augmenter la rémunération ? Il y a une érosion aujourd'hui de l'engagement pour devenir pompier. On en a chaque année, il y en a de moins en moins. Pourquoi ? Pour toutes ces questions, on va les aborder avec Éric Brocardi. Tout à l'heure à 11h dans le GG7 et match, ce qui se passe à Nancy. Est-ce qu'on doit verbaliser les voitures qui ont le moteur qui tourne alors qu'elles sont à l'arrêt ? Oui ou non ? Oui, c'est ce que dit le maire. Oui, c'est ce que dit Étienne. Non pour Elina et Mehdi. Rendez-vous avec vous au 32-16. 11h-20, le quiz des GG avec Paul Lassène et le journal du Off. En attendant, venons-en à notre nouveau sujet de discussion sur le coût de la rentrée étudiante et l'UNEF qui veut une allocation de 1100 euros par mois pour les étudiants. Est-ce que c'est de l'investissement ou est-ce que c'est de l'assistanat ? 32-16 pour en parler avec les GG.
Ce qu'on demande, c'est de la création d'une allocation d'autonomie qui serait universelle pour l'ensemble des étudiants qui le souhaitent et qui sont d'un montant suffisant pour vivre et donc calculer sur le seuil de pauvreté. On a fait le calcul, si on mettait en place l'allocation d'autonomie à la rentrée, ce serait 1102 euros par mois et par étudiant, et ça permettrait justement à tout un tas d'étudiants de pouvoir s'en sortir. Donc on voit bien en fait qu'aujourd'hui les bourses sur critères sociaux, elles sont pas suffisantes et qu'il faut réfléchir en fait l'ensemble du système d'aide sociale pour les étudiants.
La présidente de l'UNEF que vous venez d'entendre, c'est calculé, hein, 1102 euros par mois pour un étudiant. Alors aujourd'hui, un étudiant de 20 ans qui arrive en licence à l'université, c'est un autre calcul qui a été fait. En moyenne, il doit débourser près de 2500 euros en comptant les loyers, les charges, les frais liés à la rentrée, les droits d'inscription. Les bourses universitaires, elles sont revalorisées de 4%. On a l'inflation qui est là aujourd'hui. On voit que dans les villes, dans les grandes villes, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, est-ce que vous pensez que, effectivement, donner 1102 euros par mois à des étudiants le temps de leurs études, c'est une bonne chose, c'est de l'investissement, ou est-ce que c'est de l'assistanat ? 32-16 pour en parler avec les GG. Elina Dumont.
Mais écoute, je l'ai écoutée vraiment plusieurs fois, cette vidéo. Moi, je la trouve un peu radicale. Parce que déjà en plus elle dit des choses, elle dit oui, en gros on veut pas partir de la société. Bon, en attendant ils ont quand même droit au transport, ils ont le droit aux 100 euros comme n'importe quelle personne précaire. Ils ont droit, ils ont droit aux APL. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est ces étudiants ils sont au même tarif que tout le monde, quoi. Et j'en reviens à mon dada, c'est le logement. C'est ça qui coûte le plus cher, au fond. Le logement, tant que tous les logements seront aussi chers, et que ça concerne autant des salariés qui sont au SMIC que des étudiants, que n'importe qui.
C'est pour ça qu'elle dit qu'aujourd'hui, donner... tous les mois 1100 euros
oui, mais
à
alors,
des
attends,
étudiants le temps de leur Alain, scolarité, ça va aider déjà à amortir le choc du logement. Bah oui, oui. Forcément que ce soit en colocation ou tous Alain, les mois c'est à 1100 euros. Ça, déjà,
Ça a été calculé.
Tu ne seras peut-être plus obligé de travailler quand tu, parce que pour beaucoup, ceux qui travaillent, c'est aussi fatigant, ils n'arrivent pas à suivre leur cursus étudiant normal.
Alors, d'accord, peut-être pour les personnes les plus précarisées.
Oui.
Mais je suis désolée, moi je connais plein d'étudiants, c'est maman et papa qui payent les logements. Là, tu vas pas me dire.
Ils vivent chez maman et papa.
Ou oui, qui vivent.
Oui. Ou, voilà. papa et maman aident à payer la colocation ou quoi que ce soit aussi.
Oui. Tout simplement, l'étudiant a un boulot à côté où il bosse.
Ça existe aussi.
Je pense que c'est le béaba, quoi. Enfin, c'est ce que à peu près.
Toi, tu es plutôt pour qu'il trouve un boulot, quoi.
Bah, c'est pas qu'il trouve un boulot pour obligatoirement, uniquement se nourrir et qu'on leur donne aucune aide. Non. Il faut pas être radical dans l'autre sens. Si cette dame a été radicale dans un sens, il faut pas être radical dans l'autre. Mais dans le sens où, oui, ils ont droit à des aides, ce qui est normal pour qu'ils se forment et pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs études. Mais je ne vois pas où est le mal d'avoir un boulot à côté le week-end ou le soir. Parce qu'un étudiant de nos jours, c'est dur, c'est sûr que c'est pas facile. Surtout avec les augmentations dans tous les sens que tout le monde s'est pris. Ok, il y a aucun doute là-dessus. Mais me dire, ouais, nous, on réclame 1100, 2 euros, 60. Enfin, le gars, après, si tu lui dis de bosser pour le SMIC, il va te dire quoi?
Non, mais
tu
te fous de ma gueule. Il
va te dire, non, mais attends, j'étais étudiant.
Les études, c'est pour pas bosser.
Non, mais tu comprends ce que je suis en train de te dire.
Oui, j'ai compris. Mais s'il fait des études, c'est pour ne pas se retrouver à bosser.
Mais il y a des gens qui ont fait des études qui touchent le SMIC encore. Hein, ouais. Tu le sais très bien, Étienne. Donc, à un moment, je sais pas.
Toi, tu préfères qu'ils apprennent la vie tout de suite en trouvant un boulot, quoi, en fait. Ben,
c'est bien de se mettre déjà dans la vie active et de. Mais on va dire associer les deux. Maintenant, 1102 euros comme ça, avec un chiffre, on essaye. Et je trouve que c'est un peu fort de café.
En fait,
mais par contre, je ne suis pas contre les aider ou les aider encore les plus par rapport à la hausse des tarifs qu'il y a, que ce soit l'électricité, que les loyers, que la nourriture, tout ça. Il n'y a pas de sujet dessus. Il faut les aider.
Et au Crous, ils ont tout le temps le droit exiger à comme ça, un truc.
Mais Étienne Yébig. Écoute, moi, je peux donner mon exemple, c'est-à-dire que quand ma fille a fait des études, j'étais vraiment pas riche, hein. Et donc ma fille a bossé tous les soirs donc dans un resto et a rentré au dernier métro, au dernier RER à Noisy-le-Sec à 1h du mat, et a bossé parce que moi je pouvais pas payer. Bah elle a quand même été obligée d'interrompre ses études, Clara. Hein.
Non.
Non, mais attends, laisse-moi terminer. Que quand 5 ans plus tard, j'étais beaucoup plus à l'aise et que mon fils faisait des études et qu'il était donc entièrement consacré à ses études parce que je pouvais
Grâce au
cachet des GG, oui, bien sûr, je l'ai toujours dit ici. Mm-hmm. Eh bien, Charlie a été jusqu'au bout de ses études et que Clara a été obligée de les interrompre. Et je peux pas dire que Charlie soit plus intelligent ni plus volontaire. Non, simplement les conditions matérielles étaient extrêmement différentes pour elle. Et je trouve que on est là sur. Alors, je sais pas si c'est 1100, etc. Mais on est là sur la grosse question française de la reproduction de la pauvreté et de la reproduction sociale, qui est vraiment le problème numéro un. Qu'on retrouve beaucoup moins dans les autres pays comparables aux nôtres. Je veux dire qu'aujourd'hui, ce qui est problématique, c'est l'inégalité face aux études et face au travail. C'est-à-dire pourquoi en France, les enfants d'ouvriers ont beaucoup moins de chances d'accéder à des métiers ouvriers. Pourquoi les enfants de docteurs vont automatiquement reproduire plutôt des métiers soit médecins, soit avocats, etc. Et pourquoi c'est des classes sociales? On est là devant un problème beaucoup plus vaste.
Donc c'est 1100 euros, c'est un investissement dans la jeunesse.
Je ne sais pas si c'est 1100 euros. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, je trouve que cette inégalité-là, et qui est quand même assez unique en Europe, à ce point-là, on est les pires. Cette inégalité-là de reproduction, systématiquement de la reproduction sociale, qui fait que chacun se maintient dans son milieu, et alors est-ce que c'est organisé ou est-ce que ça l'est pas, j'en sais rien, mais qu'en tout cas, elle est là, cette inégalité, qu'on sait que les fils de médecins sont médecins.
Mais justement, fils de médecin, il a moins de problèmes à trouver son
bien
logement,
sûr, oui.
Donc, à être dans la vie.
Donc c'est ça.
C'est peut-être là que les 1100 euros, ils viendront compenser l'inégalité.
Au cœur du problème, tu vois, on est vraiment là dans un phénomène de société. C'est une société. Est-ce qu'on veut continuer à être dans la reproduction? Parce que ce que je dis, c'est pas qu'un accident de parcours. Je veux dire, notre société repose là-dessus. Elle repose sur le fait que on a créé des castes dont on sait qu'elles iront. Alors, il y a quelques, évidemment, on peut faire polytechnique en étant né dans une cité. Il y en a 8 par an. Ok, c'est vrai. Mais en gros, les chiffres montrent que c'est la reproduction sociale systématique. Et donc, est-ce qu'on veut sortir de ça? Ou est-ce que ce système de reproduction sociale, que les pauvres restent pauvres et que ça fasse de la main d'œuvre pas chère et que les riches puissent toujours accéder à des métiers plus sympas et mieux payés, est-ce qu'on le veut parce que c'est une volonté sociale?
J'aurais dit quelque chose. Bon, j'ai lu aussi ce matin un très bon papier dans le Parisien, La Fage, qui est beaucoup plus nuancé. Par rapport à la reproductivité...
Reproduction sociale.
Je suis tout à fait d'accord, et tu penses bien que je suis la première à être contre.
Je rappelle, tu es une enfant de la DAS aussi.
Oui, pupille de l'État. Mais il faut savoir aussi, il n'y a pas qu'une histoire d'argent. En fait, je vais t'expliquer un truc. Moi, personnellement, quand j'étais enfant, bon, même si je voulais être institutrice, ben, je savais que de toute façon, je serais peut-être que femme de ménage. Oui. Parce que aussi, on t'entretient.
Bien sûr.
Les familles chez les pauvres, c'est très rare qu'on dise, ah, tu seras avocat, tu seras président de la République.
Bien sûr.
On te laisse à ta place. Et ça aussi, c'est un vrai malheur.
Tout à fait.
Dans les familles.
Mais oui, t'as raison. Il n'y a pas que l'argent.
Oui, voilà.
Il y a effectivement ce qu'on. Dans l'explication de la reproduction sociale, il y a le milieu dont tu viens. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, beaucoup de gens de province désavantagés parce que, par exemple, ils savent que beaucoup de gens.
Mais Étienne, il ne faut pas non plus entretenir l'illusion que tout le monde pourra aller au bout des 6 ans ou des 7 ans.
Mais ce serait mieux que ce soit.
Comme tu dis, mais tu as plein de fils de bourgeois aussi qui arrivent à la fac en disant, bon, de toute façon, j'ai le temps, puisque de toutes les manières, derrière, j'ai mon matelas, j'ai ma sécurité, j'ai ma famille. Et qui vont à la fac, et puis finalement, ils sont pas autonomes, ils n'ont pas les capacités non plus pour faire 3 ou 5 ans ou 7 ans d'études aussi, quoi. Tu vois, aujourd'hui, on a l'impression
que ce soit sur la compétence, c'est les deux.
Non mais aujourd'hui l'université et la fac c'est les deux, c'est à la fois la compétence et puis c'est la manière dont tu peux te gérer toi-même en autonomie et mener à bien tes études aussi.
Alain, excuse-moi,
et ça va au-delà des 1100 euros
si
qu'on
tu
peut
peux
miser
payer
sur toi.
Un an si tu peux payer un an à ton gamin à Londres ou aux États-Unis en disant comme ça tu vas pouvoir apprendre l'anglais et que le môme il part un an même s'il est garçon de café à Londres et qu'il rentre en parlant parfaitement anglais et que ça t'a coûté 20 000 balles parce qu'à Londres ça coûte très cher les logements et que ton môme rentre en parlant anglais, il sera toujours un tout petit peu avantagé par rapport à celui qui ne peut pas faire ce stage d'anglais et qui pourra prendre.
Oui, mais t'as celui justement qui se dit la fac pour moi ça va être le meilleur moyen ou le meilleur cursus pour me sortir de mon milieu social qui est dévalorisé. C'est pour ça que je te dis que ça dépend aussi de ton caractère, de ta motivation, au-delà des capacités intellectuelles et au-delà du milieu que tu as
autour de toi. Il y a un critère, on pourrait changer. Je l'ai appris il y a quelques mois, je ne le savais pas. Je connais une jeune femme qui est à Sciences Po, qui est boursière, et elle me dit « faut que je travaille comme une dingue ». Je dis « au pire des cas, tu redoubles ». Mais elle m'a expliqué que quand tu redoublais, tu n'avais plus le droit aux bourses. Et ça, c'est un critère.
Bien sûr.
Parce que quand tu dois faire un travail à côté,
c'est l'excellence.
Il est possible que tu redoubles.
Bah, tiens, justement, toi, tu as des jeunes? Tu embauches des jeunes, des étudiants? Tu en as ou pas?
On en a un qui est en BTS en alternance. Donc, c'est par rapport à ses cours. Ouais. Mais dans la mécanique, non, on n'en a pas. Franchement, dans la restauration, on a des étudiants qui bossent pendant les 2 mois d'été.
C'est ça.
Mais pas le soir après le boulot.
Non, parce que ça, c'est pas possible pour eux. Derrière, ils ne pourraient pas arriver.
Il y en a.
Mais par contre, tout ce qui est McDo, Quick, KFC, tout ça.
Et ils s'adaptent d'ailleurs.
Ils s'adaptent aux horaires
et ces boîtes. Après, c'est sûr que ce n'est pas les meilleures sociétés du monde pour gagner du pognon. Mais l'avantage, et je pense que c'est l'un des rares avantages de ces boîtes-là, c'est qu'elles s'adaptent aux horaires des étudiants. C'est-à-dire que l'étudiant ramène son planning de cours.
Ouais, c'est ça.
Et chez Decathlon, ils le font aussi.
Et à partir de là, bam, ils lui disent, cette semaine, tu viens de telle heure à telle heure.
Et toi, tu fais pas pareil?
Non.
Pas, la restauration, il peut pas.
La restauration. Tu vas lui dire quoi? Tu viens de
21h
à 21h30?
Non. T'es l'enfant, tu peux pas.
Mais
non,
dans un instant, on en parlera avec Hassan. Il est professeur, il est du côté d'Orléans. Nous sommes dans le département du Loiret. Alors, on verra s'il est pour ou s'il est contre, s'il estime que c'est de la cistana ou un investissement. L'UNEF dit, si on veut miser sur la jeunesse, que les étudiants ne galèrent pas, il leur faut une allocation de 1100 euros par mois. D'accord ou pas, 32-16 pour venir en parler avec les GG, avec les grandes gueules, en direct avec Mehdi Guézard, avec Elina Dumont et avec Étienne Liebig. On a lancé la discussion. Eh bien, à vous d'y participer maintenant. Il est 10h15.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules avec aujourd'hui Elina Dumont, intervenante sociale, Mehdi Guézard, chef d'entreprise. Nous sommes avec Étienne Liebig qui est avec nous, qui est éducateur. On parle de ce que demande la FAGE, ce que demande l'UNEF, pardon. La FAGE, la Fédération des étudiants, dit que le coût de la rentrée a bien augmenté pour les étudiants. L'UNEF dit aujourd'hui, il faudrait penser à instaurer un revenu étudiant, en fait, une allocation de 1102 euros par mois, le temps que durent les études. Hassan, bonjour.
Bonjour Alain.
Bonjour. Bienvenue, vous êtes enseignant du côté du Loiret, à Orléans. Est-ce que vous êtes pour ou contre, c'est un investissement, dites-moi alors.
Je suis totalement opposé au fait, pour une raison simple, et j'en parle la conscience tranquille, puisque je n'ai jamais été boursier, je viens d'un milieu modeste, donc j'ai la chance d'être sur les deux tableaux. En fait, je suis prof dans le secondaire, dans un lycée technique, puis j'interviens depuis 4 ans dans une école d'ingénieur dans le supérieur. Donc j'observe un peu les deux facettes de cette situation. Alors je la trouve un peu démago, en fait, parce que à quel niveau on va mettre la barre? Parce que là, c'est 1100 euros, 1102, je crois, d'après ce que j'ai entendu. Ouais. Donc peut-être dans quelques mois, ils vont dire le pouvoir d'achat, c'est pas assez, donc l'inflation, on va peut-être la remettre à 2000. Je pense que ça va pas aider, en fait, nos jeunes, parce qu'il y a j'aime pas le mot assistant, parce qu'elle a été beaucoup utilisée, en fait, pour des raisons démagogiques et politiques, par quelqu'un que vous connaissez, c'est que ça va démobiliser une partie de la jeunesse qui vont croire que tout leur est dû. Et finalement, je pense qu'à l'image un peu du fiasco de l'allocation de rentrée scolaire, parce que moi je suis dans le secondaire, depuis que ça a été mis en place, j'ai constaté un petit peu le fiasco, puisque beaucoup de jeunes qui viennent des familles qui perçoivent cette allocation, justement, sont eux qui n'ont jamais leur matériel, qui n'ont jamais leur fourniture scolaire. Alors dans le supérieur, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que finalement, la recomposition sociale dont parlait Étienne tout à l'heure, oui, en tant que spécialiste, parce qu'il est sociologue, en fait, elle n'est plus, en fait, aussi bipolaire, en fait. On n'est plus dans deux catégories de population. Les fils des bourgeois, des hautes sphères, qui sont dans le confort, qui réussissent leurs études, et puis les autres, qui sont, parce qu'ils sont dans un milieu modeste, qui peuvent un peu, ça peut compromettre leurs études. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. On est sur, par exemple, des classes moyennes en France, en fait, donc des étudiants dont les parents sont qui ont des petits salaires, en fait, et qui ne bénéficient de rien du tout, qui n'ont aucune bourse, si vous voulez, et qui sont exclus de tout. Et je pense que la mise en place de cette allocation, en fait, elle va, à mon avis, démobiliser une partie de la jeunesse qui va croire que tout lui est dû. Et puis, en fin de compte, finalement, on va tomber dans le même piège où je ne suis plus obligé de faire ma licence en 3 ans. Je peux la faire finalement, si c'est l'universel. Ouais. Voilà, donc je peux la faire en 5 ans, donc j'ai le temps. Donc je vais faire autre chose.
Vous pensez que ça va démobiliser, ça va démotiver, voilà, quoi, en fait, c'est
voilà,
ça.
Ça va les démobiliser, ça va les démotiver. Et puis, ça va, à mon avis, créer une sorte de, je dirais, de...
Oui, mais on peut raisonner à l'inverse aussi, Hassan. C'est-à-dire que pour ceux qui sont au contraire motivés, mobilisés, le fait de pas avoir beaucoup de ressources, de devoir travailler, vous voyez, de toujours se courir après, c'est, alors pour certains ça peut forger le caractère, mais pour d'autres ça peut les décourager aussi. Et donc s'ils avaient ce petit oxygène, ça pourrait les aider. Vous voyez, votre raisonnement, je peux le retourner aussi, Hassan. Vous vous en êtes sorti en tant que milieu modeste sans aide, mais vous en avez qui n'y arrivent pas, quoi, en fait.
En fait, la méritocratie républicaine, elle fonctionne toujours dans ce pays, malgré...
Les chiffres ne sont pas tout à fait d'accord avec vous. Quand on regarde les derniers chiffres qui sont sortis, qui datent de 2019, je n'ai pas eu depuis, cette reproduction sociale est toujours là et existe toujours. Alors peut-être, elle s'est un peu atténuée. Nous sommes quand même le pays où elle est le plus présente. C'est un véritable problème. D'ailleurs, les politiques s'en emparent régulièrement. De droite comme de gauche, d'ailleurs, ils sont assez gênés par cette question-là, parce que c'est gênant dans un pays qu'on manque comme ça,
Mais regarde, même la gauche, même dans les années 80, où c'était déjà un peu réclamé, on est resté sur le système des bourses.
On est bien sûr.
Quand ensuite la gauche de Jospin était au pouvoir aussi, on préfère revaloriser les bourses plutôt que de donner ce revenu étudiant qui a été mis en place dans d'autres pays.
Mais tout à fait, bien sûr, ça existe ailleurs.
Ça prouve qu'en France, on a un problème avec ça.
Et d'ailleurs, par contre, ce qui a augmenté énormément, c'est le nombre d'étudiants qui font des emprunts à des banques. Et donc, il y a tout un système bancaire qui s'est mis en place autour de cela.
Il faut avoir des garants.
Évidemment, des garants. Avec tout un système qui s'est mis en place, alors évidemment, on peut dire que c'est une forme, après tout, d'entrer dans la réalité du capitalisme. Et effectivement, les 5 premières années de sa vie professionnelle, on rembourse une part de l'emprunt qu'on a fait. Donc on peut, parce que finalement chacun va se démerder, hein. Donc l'emprunt, il est encore une forme d'inégalité sociale. Maintenant, on peut considérer, et je vous suis là-dessus, que après tout c'est la réalité. On n'est pas tous égaux. Il y a des inégalités sociales dans ce pays, et nos enfants ne sont que l'image de ce que nous sommes nous-mêmes sur le plan social, et pas que social, comme tu l'as dit tout à l'heure, puisque c'est pas.
Oui, mais t'as entendu ce qu'il dit Hassan, c'est que parmi les plus modestes qui voient arriver aussi à l'école, ceux qui touchent les aides, bah finalement, pour certains, alors c'est son vécu, hein, sont ceux qui n'ont pas les fournitures scolaires. Peut-être oui, parce que à ce moment-là, l'aide, elle sert à autre chose.
Il y a plein de choses à acheter quand t'es
beau. Chose dans le quotidien, quoi. Oui, Elina, reste avec nous, Hassan.
Oui, Hassan. Il y a des coûts obligés qu'il n'y avait pas il y a quelques années. C'est quand même le portable, l'ordinateur,
ouais, les abonnements,
l'opérateur. Et ça, c'est des... Attends, excuse-moi, un portable, un ordinateur, ça coûte cher, quoi. Et peut-être, faudrait peut-être miser plus sur ça, ou même une partie du logement, peut-être augmenter les APL pour les logements. J'en sais rien. Mais je pense que c'est là qu'il faut creuser.
Hassan ?
Oui, en fait, donc Elina, en fait, a raison, en fait, parce que moi, ce qui... c'est le mot universel, un petit peu, qui me gêne, parce que quand on met en place quelque chose d'universel, en fait, ça va devenir culturellement, en fait, aux yeux de beaucoup de jeunes, en fait, qui arrivent, qui veulent avoir vraiment les clés pour entrer dans la vie, comme quelque chose qu'il aurait dû. C'est-à-dire ce que l'excellente Barbara Lefebvre, en fait, ma collègue, dit toujours, c'est-à-dire on va tomber dans la génération, j'ai le droit. Et ça va pas du tout l'aider. Je vais être très concret avec vous, les GG. Il y en a qui disent, en fait, les enfants de profs deviennent tous des médecins, tout ce qu'on veut, etc. Moi, j'ai ma gamine qui a été à 0,07 au fait du numerus clausus à la fac de médecine de Tours cette année. Et elle m'a raconté justement qu'il y avait énormément de camarades, au fait, qui viennent pour majorité des classes moyennes, qui ont par exemple des parents comme moi, je suis professeur, ma femme elle est agent administratif, au fait, on n'est pas des notables, au fait, vous savez, on fait partie des gens, au fait, qui n'en auront à rien. Donc depuis la maternelle, donc le quotient neuf, en fait, je veux dire, tout est de notre poche, en fait. Et moi, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, alors, à l'amphi, là où tu as passé le concours, est-ce qu'il y a des fils de professeurs de médecine, des profs, des fils de députés, voilà, avec cette mandarin et tout? Elle m'a dit pas du tout. Elle m'a dit, au fait, il y a une très grande majorité, au fait, qui était avec elle, au fait, à Tours, qui viennent tout simplement des gens qui sont parfois à 200, 300 euros au-dessus du plafond, qui les privent de tout. Et le fait, ouais, je pense, parce qu'en fait, l'allocation de l'UNEF, elle ne va pas justement concerner justement ces jeunes-là.
Donc,
les parents dépassent le SMIC de quelques centimes. C'est pour ça que ça va encore, en quelque sorte, reproduire la bêtise de Parcoursup, qui finalement, je ne sais pas si vous le savez, une partie de l'algorithme de Parcoursup, c'est le professeur qui vous le dit, où finalement, on a fait un petit peu une sorte de discrimination positive déguisée, d'une manière algorithmique, où on a fait passer les gens pour rentrer dans certaines grandes écoles, parce qu'ils étaient boursiers. Mmh. Ce qui, pour moi, le méritocrate que je suis, est totalement aberrant. Donc, c'est-à-dire, en fait, le fils du couple d'employés ou d'ouvriers qui sont à 27 000 euros de revenus annuels, au fait, finalement, il sera déclassé parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui passe devant lui parce qu'il est boursier. Et ça, moi, je pense que ce n'est pas du tout très méritocratique. Et ça va pas aider la jeunesse. C'est un peu mon argumentation.
Mais qui est étayé, mon cher Hassan, je vous remercie d'avoir été avec nous. Et je vous souhaite une bonne journée, une belle fin d'été, Hassan. Merci d'avoir été dans les GG. Merci de votre fidélité. À bientôt.
Et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup.
Merci, Hassan. Laïla est avec nous. Elle nous appelle de l'Eure aussi, de Verneuil-sur-Avre. Bonjour, Laïla.
Bonjour. Vous allez bien?
En pleine forme, Laïla. Et dites-nous, j'espère que vous l'êtes aussi. Et quelle est votre position, alors, dans ce débat? Est-ce qu'il faut donner ces 1100 euros? Est-ce que c'est de l'investissement ou de la cistana?
Alors, pour répondre à la première question, oui, je vais bien. Et moi, je suis complètement pour ce que vous appelez de l'assistana. Sincèrement, c'est pas de l'assistana quand on voit des jeunes qui n'ont pas de quoi manger. Je pense qu'il faut faire une dissociation entre une allocation pour les étudiants, c'est-à-dire les gens qui sont après le bac et qui rentrent à l'université ou dans des écoles, puisque avec Parcoursup, tout le monde ne peut pas rentrer à l'université pratiquement gratuit pour certains. Ils sont automatiquement dirigés sur des écoles privées qui coûtent une blinde pour des BTS ou des choses comme ça. Et moi, j'ai deux enfants. Hein. J'ai une fille et un garçon. Ils sont tous les deux à l'université. Ma fille est en dernière année de licence de sociologie. Et mon fils rentre en dernière année de master.
D'accord.
Sur les achats à l'international.
Bravo. Félicitations.
Donc, je les ai beaucoup frappés hein, pour qu'ils en arrivent là. Non, je rigole. Donc, non, je rigole. Non, ils sont épanouis.
Mais ça aurait pu vous aider éventuellement, oui. cette bourse, alors où s'il y avait eu ce revenu de 1100 euros, vous soulager et les aider, quoi, en fait, c'est ça.
Absolument, parce que moi, j'ai des enfants qui devaient travailler pour pallier au manque de revenus que moi, j'avais à cette époque-là. Et donc, ma fille avait trouvé un petit job de vendeuse dans des grandes enseignes de prêt-à-porter que je nommerai pas. Et mon fils était réparateur de bicyclettes chez un marchand de vélos. Et avec le Covid, pendant 2 ans, ben plus de revenus. Avec la loi sur les acédiques, pas droit aux acédiques. Donc, on s'est retrouvés avec des enfants qui avaient plus que 450 euros de bourse par mois. Et donc, parce qu'il n'y a pas que la bourse. Je vais répondre à la dame qui est sur le plateau. Excusez-moi, madame. Voilà. Et parce que il y a pas que ça, je veux dire, quand une fois que le loyer il est payé avec le meilleur des cas entre 500 et 700 euros et surtout pas à Paris, eh bien vous avez la note de gaz pour se chauffer. Vous avez...
Oui, mais moi quand je dis logement, je pense à tout ça, électricité, ouais. L'assurance,
l'eau. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple le chauffage au gaz et qu'il faut faire vérifier la chaudière qui coûte 182 euros tous les ans, sinon l'assurance prend pas à charge, d'accord. Vous avez l'électricité, l'assurance de l'appartement, vous avez internet parce
non, mais
que
vous
avez le téléphone, vous avez la mutuelle, vous avez la nourriture, vous avez les vêtements, vous avez les
livres. Bien sûr.
Et sincèrement, ça devient mais ubuesque.
D'accord.
Alors après le montant, je ne sais pas, 1100 euros, je ne sais pas comment la jeune femme a calculé ça au niveau du syndicat des étudiants. Mais d'abord, c'est pas du tout de la situation.
C'est à peu près ce serait à peu près la moitié, si vous voulez, de ce dont l'étudiant aurait besoin. Ça couvrirait, on va dire, les basses charges.
La somme, elle est discutable. De toute façon, on est bien d'accord.
C'est discutable.
En plus, qu'on considère que quelqu'un peut vivre avec 500 balles avec le RSA. Donc. La somme, elle est discutable, bien sûr. Mais...
Donc, on a besoin d'aider, de pousser ces étudiants, de les aider dans ce cursus, au moins de les aider financièrement. Après, ils font leur part en tant que pendant la scolarité. On voit si ça marche ou pas. Mais on les aura aidés dans la logistique, dans l'intendance, quoi. C'est ça.
Parce que, je veux dire, le principe de dire ça va démobiliser les jeunes, mais c'est complètement ubuesque de dire quelque chose comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui sont déjà à la fac, qui ont eu déjà du mal à avoir eu un baccalauréat, enfin, du mal. C'est une manière de parler, etc. Vous croyez vraiment que ça leur fait plaisir de passer une licence de 5 ans à la
Alors, Laïla, je vous propose de rester avec nous pour écouter l'argumentaire d'Aurélien qui nous appelle du Puy-de-Dôme. Je suis content, j'aime bien quand on voyage dans les GG. On était en Loiret, dans l'Eure, dans le Puy-de-Dôme. On voyage à peu de frais au 32-16. Bonjour Aurélien.
Bonjour les GG.
Vous avez entendu ce que dit Laïla, elle dit c'est un investissement. Et qu'en dites-vous, vous, Aurélien?
Ben moi le problème c'est le retour sur l'investissement qui me dérange un peu parce que j'ai 34 ans mais il y a une dizaine d'années j'avais un copain qui avait commencé une licence d'anglais si vous voulez, donc issu d'une famille modeste avec des parents divorcés, il avait le taux plein pour les bourses, il touchait je crois 550 euros à l'époque par mois, plus les aides au logement, il avait un petit studio sur Clermont-Ferrand et en fin de compte il a fait sa première année de licence, il a redoublé, donc il a eu une seconde chance, on lui a redonné des aides pour une deuxième année.
Donc il a perdu sa bourse année,
il a... Non, pas du tout.
Allez-y,
je vous en prie.
Quand on redouble, on perd sa
bourse. Deuxième année, il a aussi échoué, si vous voulez. Il est allé voir l'assistante sociale. Il est allé un peu pleurer, si vous voulez, vers l'assistante sociale. L'assistante sociale lui a dit, ok, on vous redonne une année de bourse supplémentaire pour réussir votre première année. Donc... Au bout de 3 ans, il a quand même réussi à valider sa première année. Il passe sur sa seconde année au bout de 4 années de bourse. Et à cette 4e année de bourse, il se dit « Ah, bah finalement, la phase, c'est passé pour moi. » Donc, au mois de décembre de la 4e année, il arrête tout.
Oui, donc, mais là, c'est là on prend un cas particulier, Aurélien.
D'autant plus qu'aujourd'hui, les bourses sont coupées quand on redouble.
Bah oui.
On peut pas avoir de bourse.
Votre copain, c'est un champion du monde.
Quand on est en échec, on perd sa bourse.
Pourquoi pas responsabiliser les étudiants au lieu de leur donner 1100 euros, vous leur faites un prêt garanti par l'État ou un prêt à taux zéro
déjà.
Pour les
C'est ce qu'ils font.
Ça existe déjà.
C'est ce qu'ils font.
Oui.
C'est ce qu'ils font.
C'est oui. ce qui existe déjà. Alors. Mais là, Aurélien, votre champion du monde, là, votre copain, lui, c'était parce que ça lui permettait de.
C'est un futur patron du CAC 40.
Non, mais il a triché parce que les bourses sont conditionnées à la réussite.
Voilà, c'est pour ça.
Les bourses sont conditionnées à la réussite. Si on échoue dans son année, on perd le droit à la bourse. C'est la première règle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tant de tensions, qu'il y a tant de problèmes, de stress.
Aurélien, il est devenu quoi, votre copain, ministre du budget? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui?
Du coup, non, il est devenu réceptionniste dans un hôtel.
Bah, c'est pas mal. C'est bien.
Oui. Il a quand même réussi à faire quelque chose, si vous voulez. Mais bon, est-ce que ça valait les 4 années de...
Oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. Et peut-être qu'il était perdu lui-même, il savait pas ce qu'il voulait vraiment faire.
Il voulait conduire, il voulait pas travailler tout de suite.
Perdu, il était pas plus perdu qu'un autre, vous savez.
Et ceci dit, la première année de fac, quand on sort du bac, et là, ça se voit, les deux premières années de fac, c'est-à-dire on demande aux jeunes en France très tôt ce qu'ils veulent faire, dès la troisième. Et ensuite, on les envoie dans une filière, où ils vont dans une filière, et c'est vrai qu'on sait qu'entre 18 et 20 ans, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de ce qu'on veut faire vraiment. C'est pas à 16, 17 ans, à 18 ans, entre 18 et 20 ans, on se dit, j'ai fait psycho, mais franchement, c'est pas mon truc, quoi. Je veux faire du commerce, je veux partir, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi deux années de calage par rapport à ses propres
Merci à Laïla et à Aurélien d'avoir participé à notre discussion. On vous a posé la question, là encore, sur les réseaux sociaux. Qu'en dites-vous? 1100 euros pour les étudiants. Est-ce que c'est de l'investissement ou de l'assistanat? On est quand même sur assistanat à 70.
Ah, on n'aime pas beaucoup les étudiants.
C'est la somme.
1100 euros.
Il y a trop de dispositifs déjà aujourd'hui, quoi. Dans un instant, on va passer au journal du off et au quiz des GG. Dans le journal du off, la préparation, là, c'est de la visite d'Emmanuel Macron, le président de la République, la semaine prochaine. En Algérie, et quand on se souvient des différentes petites phrases prononcées de part et d'autre de la Méditerranée, on se dit qu'il serait peut-être temps qu'on arrive à se parler peut-être un peu en souriant. Mais remarquez, je me disais, pourquoi est-ce que le président va en Algérie aussi? Et il y a du gaz, il y a du pétrole, mais d'un coup, tu vois, je me suis dit, mais pourquoi? Mais ça y est.
Je pensais que c'est parce qu'il y avait les douches sur les plages.
Allez, à tout de suite avec les GG.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules avec aujourd'hui Elina Dumont, intervenante sociale, avec Étienne Liebig, qui est éducateur, Mehdi Guézard, chef d'entreprise. Alors, certains s'étonnent que Mehdi Guézard ne soit pas aussi dynamique qu'il peut l'être habituellement. Bon, je te laisse dire.
Non, je me suis fait, j'ai subi une intervention chirurgicale il y a 5 jours. Donc, je suis resté 6 jours. Je suis resté presque 3 jours, 72 heures en hospitalisation. Donc je suis un peu patatras, mais voilà, c'était un plaisir.
Qui donne des médocs.
Tu prends des antidouleurs.
Je prends des antidouleurs. Ouais, bah, ne me fais pas
que j'ai racheté. Non, mais parce que j'ai essayé de te les racheter.
Je vais me faire passer pour un toxico.
pas encore. Pour une dizaine de jours.
J'ai dû zapper l'émission de vendredi. Je me suis décommandé en toute dernière minute à Paul et je m'en excuse. À notre producteur et je m'en excuse. Problème. Mais aujourd'hui, je me tenais de venir. Voilà. Et je suis désolé si je suis pas aussi virulent et chiant envers Étienne que d'habitude. Je sais que les auditeurs et auditrices adorent les clashs que j'ai avec Étienne, mais voilà.
Mais les patrons sont tous ramolos.
Je reviendrai plus fort le 26.
Les patrons sont des ramolos, mais c'est bien connu.
Paul Lassen nous a rejoint. Ça va être le quiz des GG dans un instant. Juste temps de regarder une petite news du journal du off. Petite news du journal du off qui concerne la préparation du voyage du président de la République là au cœur de l'été, en fait, de part et d'autre de la Méditerranée entre Paris et Alger. On a programmé un déplacement du président à Alger le 25 août. C'est une visite d'une journée. Une journée. Il sera reçu par son homologue, le président Tebboune. Les deux hommes ont échangé donc durant l'été. Alors, vous savez, vous connaissez le contexte. C'est le contexte de l'année d'indépendance, la signature des accords d'Évian en 1962-2022. Ça fait 60 ans. Emmanuel Macron, souvenez-vous, en 2017, avait déclenché un tollé parce qu'il avait parlé de la colonisation comme crime contre l'humanité. En 2021, le ministre algérien du Travail, M. Djaboub, avait dit que la France était un ennemi traditionnel et éternel. Le président de la République, l'année dernière, avait parlé du système politico-militaire algérien qui vivait sur une rente mémorielle d'une histoire officielle qui ne s'appuie pas sur les vérités. Bon, on essaie tant bien que mal de se rabibocher. Et puis est venue la crise russe, la crise ukrainienne. Et donc, il y a peut-être intérêt à ce que Paris et Alger se parlent un peu mieux, quoi, en fait, c'est ça. L'Algérie est l'un des tout premiers partenaires de la France au niveau,
au niveau économique. Et il y a quelque chose qui est très important à savoir, c'est que l'Algérie est le premier pays exportateur de GNL, de gaz liquéfié, et le quatrième exportateur de gaz naturel au monde. Donc, à une heure de vol de Marseille, forcément, c'est intéressant d'avoir un partenaire économique de cet acabit-là. Et vu ce qui se passe du côté est de l'Europe, avoir l'Algérie comme partenaire, ce qu'ont fait d'ailleurs les Italiens avec Saipem et Eni, ce qu'ont fait les Espagnols avec Repsol, et les Français essayent justement de se rapprocher le plus possible du gouvernement algérien pour avoir pour être au chaud cet été, quoi. Cet hiver plutôt.
L'Algérie, c'est une réserve de gaz naturel de 2400 milliards de mètres cubes. Et l'Algérie fournit 11% du gaz consommé en Europe.
Le truc qui est vraiment très emmerdant avec c'est que ces rapports sont toujours politiques et chargés d'histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on n'arrive pas à avoir un simple rapport qui serait un rapport soit économique, soit culturel, soit d'échange d'étudiants, comme avec tous les pays du monde. On est obligé là toujours d'avoir cette espèce de rapport politique, le passé, ce qui nous arrivait, et à chaque fois il faut des petites phrases, et à chaque fois, c'est-à-dire que on n'arrive pas à se libérer de ce lien de colonisation qu'on a eu, de la guerre d'Algérie, des gens qui font de la pression politique à gauche, à droite, à l'extrême droite. Écoutez, là, il y a un moment, il va falloir sortir de tout ça et avoir des liens. Enfin, je sais pas, comme les Américains ont avec le Vietnam, ils sont arrivés à établir des liens tout à fait normaux. On fait des échanges culturels, économiques, etc. Allons-y, quoi. Arrêtons de brasser.
Géographiquement, c'est pas la même chose. Tu as un poids, un gros poids historique où il y a 60 ans, la France et l'Algérie ne faisaient qu'un. Donc c'est une indépendance qui a été douloureuse, où tu sais, c'est une histoire de je t'aime moi non plus, tu vois, c'est je t'aime moi non plus, des fois c'est toi, des fois c'est moi, des fois moi je fais la gueule, des fois toi tu fais la gueule, mais on a un lien. Non, mais c'est très sincère. Il y a un lien historique, excuse-moi, je te donne le dos, je suis désolé, c'est juste pour me... il y a un lien historique entre ces deux pays, et c'est vraiment fusionnel entre ces deux pays. Maintenant, c'est bien que Emmanuel Macron fasse un pas vers l'Algérie pour justement essayer de régler tout ça, quoi. Mais bon, est-ce que c'est par intérêt?
C'est-à-dire où il a peut-être pas tort, c'est qu'il y a une ancienne génération au pouvoir
qui est en train de s'éteindre.
Et voilà, elle entretient cette tension. Voilà, alors que
l'ancienne génération, justement, c'était le président qui était juste avant, qui était le président Bouteflika, qui est décédé l'année dernière. C'est l'un des derniers dinosaures, justement, des révolutionnaires de 56-62, donc de 1956 à 62. Donc, honnêtement, je pense que les portes sont bien ouvertes pour qu'il y ait une relation un peu plus amicale et beaucoup plus prospère.
Tranquille pour l'avenir.
Un peu plus sympa pour l'avenir que les 60 dernières années, quoi.
Alors, moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Bon, si c'est pour le gaz, de toute façon, on en a besoin. Hein.
Mais c'est sûr que l'Algérie, elle est en position de force. Attention, l'Algérie est en position de force, pas qu'avec la France. Est en position de force avec l'Europe.
D'accord.
Mais 11%.
Mais ce que je voulais dire, la question que je me pose, c'est quoi en échange? Parce que j'imagine qu'il. Ouais. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, alors rien à voir avec le gaz, hein, c'est que j'aimerais bien que M. Macron, pendant qu'il est en Algérie, je te le dis parce que je suis là-dedans, c'est qu'il faut arrêter. Il y a des mineurs isolés marocains. Mais nous avons aussi beaucoup de mineurs isolés algériens. Et je peux t'assurer que moi, ça me fait trop mal au cœur de les voir à la rue.
Donc il y a un dossier
Il y a un dossier aussi à voir dont on parle très peu. Je suis content d'être au Grand Gueule pour en parler.
Qui sera abordé, on le souhaite. On y va pour le quiz des GG.
En direct du plateau 208 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des Grandes Gueules.
Les petites questions qui sont dans l'actualité, qui est allé piocher notre compositeur Paul Lassen. Bonjour Paul.
Salut à tous. Alors les grandes gueules, on a appris hier le retour d'un homme qu'on ne voyait plus trop, mais qu'on va retrouver tous les samedis soirs à la télé. De qui s'agit-il?
Jean-Claude Deschavannes sur France 2.
Jean-Claude, c'est son cousin qui élève des chèvres dans le.
Excuse-moi, Christophe Deschavannes sur France 2 avec Léa Salamé.
Voilà, c'est hier, on l'a appris grâce à nos confrères du Parisien. On va le retrouver donc aux côtés de Léa Salamé tous les samedis soirs en deuxième partie de soirée sur France 2. Donc, il ne va pas prendre la place de Laurent Ruquier, hein, qui co-présentait avec Léa Salamé la saison dernière. Non, ce qu'on nous dit, c'est qu'il disposera d'un statut spécial d'invité permanent. En gros, il sera là toutes les semaines et il aura un rendez-vous à lui. Je peux penser aussi qu'il interviendra pendant... voilà, quelque chose comme ça. Vous êtes content de revoir Christophe Deschavannes à la télé?
Enfin, je me souviens plus qui c'est.
Coucou, c'est nous.
C'est le Montmardi.
Franchement, c'est une époque que je ne regardais pas du tout la télé. Je sais pas.
Ce qui est intéressant, c'est que ça dit une chose, en fait, le retour de Christophe Deschavannes. J'espère qu'il viendra nous en parler. S'il écoute les GG, je sais qu'il les écoute. On le salue. C'est que c'est une personnalité qui correspond en fait à l'âge du public qui continue de regarder ses émissions en direct tard le soir. C'est-à-dire que Christophe, il a la soixantaine aujourd'hui, et que le public des émissions de talk-show, de direct, un peu sociétal, politique, c'est pas la jeunesse, c'est pas les 25-40 ans. Donc, pour continuer de garder un public, tu mises sur ceux qui ont envie de revoir Christophe Deschavannes à la télé, que ça va attirer les 45, 50, 55 ans et plus, quoi. Voilà.
Donc, regarde la télé.
Je sais pas si un moment, Christophe Deschavannes, tu le voyais partout, quoi. Il avait des prime time dans tous les sens.
C'est une époque que je regardais.
C'était le Cyril Hanouna de maintenant, quoi. Tu vois, il avait des émissions sur plusieurs, c'était incroyable.
Je sais pas, je me dis, c'est peut-être un aveu d'impuissance face à l'érosion, tu vois, des gens qui sont devant la télé, quoi. Monsieur Paul, on y va.
Les GG, vrai ou faux, un maire a pris un arrêté dans sa ville pour limiter à 3 le nombre de fêtes par habitant et par an.
Vrai !
Bonne réponse, Delina, ça se passe dans le village de Condé-Saint-Libière, en Seine-et-Marne. Oui, alors pourquoi ? Alors, le maire explique qu'une société louait une maison sur la commune, qu'elle sous-louait à des personnes qui ne faisaient que des fêtes. 15 plaintes ont été déposées contre les propriétaires de la maison. Du coup, cet arrêté va tolérer la pratique d'activités festives à l'intérieur ou à l'extérieur, mais seulement à l'occasion d'événements spécifiques, comme le 14 juillet, le jour de l'an.
C'est fou quand même, on est obligé de tout réglementer aujourd'hui, quoi.
Mais attention, c'est pas tout, puisque quand vous faites du bruit, quand vous jardinez, quand vous construisez votre maison, quand vous faites des travaux, Étienne, tu sais de quoi je parle. Eh bien là, ça va être sur des plages horaires, c'est-à-dire la semaine de 8h à midi et de 14h à 20h, et de 9h à midi et de 14h à 19h le samedi. Et tous les responsables de cafés, bars, restaurants devront faire le moins de bruit possible toute la semaine.
C'est terrible. C'est terrible. Je vais vous dire, moi
ça fait
peur. Connais bien le problème sur Paris et tous les lieux festifs qu'on fermait. Parce que alors les voisins disent mais oui mais on paye. Alors c'est marrant parce qu'ils s'installent là où il y a un café où il y a de la musique.
Ouais.
C'est-à-dire ils achètent un appartement au-dessus ou en face.
Ouais. Donc après ils gueulent.
Et puis après ils disent ouais mais alors moi je peux pas dormir. J'ai payé c'est 1 500 € le mètre carré et j'ai du bruit toute la nuit et je. Mais il faut pas venir t'installer dans cette rue-là, mon pote. Faut aller t'installer dans une rue. Faut aller à Nevers. Tu seras pas gêné par le bruit.
À Soissons.
Allez, de Cise.
Petit QCM pour vous, les GG. Pourquoi a-t-on assisté à des scènes de panique dans un magasin IKEA? Première proposition. Pour la fermeture du tout premier IKEA qui a ouvert en 1958 à Almoult, qui est la ville de création d'IKEA. Puisqu'on a assisté à une rupture de stock de hot dog dans le magasin IKEA de Gouin-dans-Lavry dans les Deux-Sèvres, ou un cas de Covid déclaré dans un magasin de Shanghai.
C'est Shanghai, ça.
Du coup, les autorités l'ont fermé les minutes suivant l'annonce.
C'est Shanghai, ça. C'est
absolument. Samedi, ça s'est passé samedi, donc à Shanghai, un enfant de 6 ans qui était positif au Covid asymptomatique est rentré dans le IKEA. Du coup, panique totale. La Chine, on le rappelle, applique des règles de zéro Covid. Donc tout le magasin a été bouclé. Tout le monde devait être mis en quarantaine pendant 2 jours sur place, puis 5 jours de surveillance sanitaire, donc piqué jusqu'à chez lui. Mais lorsque l'annonce des haut-parleurs a été diffusée, tous les clients se sont précipités vers la sortie. Vous pouvez voir des images sur RMC Story pour pas passer le week-end enfermé.
Ils étaient déjà tous masqués.
Eh oui.
C'est ça.
Ils ont paniqué, ils se sont barrés tous en courant à cause du gamin qui est rentré dans le magasin.
C'est absolument ça.
Au lieu d'abattre pour l'enfant,
oui, c'est ça. C'est plus simple. Tu, sur place, derrière, tu, tu montais un petit meuble Ikea, tu le collais dedans, tu le vissais, et tu t'incinérais tout ça.
Et il te reste toujours une vis à la fin.
Ouais,
merde. Non, mais ils sont dans un délire à Shanghai, enfin en Chine. C'est un truc de dingue. Hein.
Ouais. Merci, monsieur Paul.
On disait qu'ils avaient, perdu 40 ans.
Ils n'écoutent pas, mais.
Ils avaient perdu 40 ans.
Un grand plaisir. Moi aussi, je t'écoute.
Allez, dans un instant, on va à Nancy avec vous, au 32-16, Nancy. Verbaliser les voitures avec le moteur qui tourne, les voitures qui sont à l'arrêt, le moteur tourne, le maire veut les verbaliser au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. 32-16,
RMC. William Wallace de Nancy.
On en parle avec vous dans les GG.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.